le Vendée Globe. Alors ces marins, fort courageux d'ailleurs, font le tour du monde en solitaire, sans assistance, tout seul à bord. Et paraît-il que là-bas, dans l'océan Indien, ils ont essuyé déjà beaucoup de tempêtes. Et je pense que leur espoir, c'est après avoir fait la boucle, de rentrer, où ça ? Au port. Eh bien, c'est un petit peu l'image de la vie, ça, vous savez. La vie, c'est un grand voyage. Il y a un départ, il y aura une fin aussi. Et pendant la traversée, nous pouvons être amenés à traverser beaucoup, beaucoup de tempêtes, beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais quand on est un enfant de Dieu, on sait que nous avons une place dans le port qui nous est préparée, réservée, dans le port éternel, alléluia, et que c'est Jésus qui est le capitaine à bord de notre vie et qu'il saura sûrement, sûrement, certainement, on peut lui faire confiance, vous conduire jusqu'au port. Alors, pour que ça puisse vous arriver, eh bien, nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu et considérer quelques enseignements des Écritures. On va lire dans un psaume, c'est le psaume 130. On va lire tout le psaume, même si nous n'en sélectionnons qu'une partie qui sera de base à notre réflexion cet après-midi. Cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Voilà. Kevin vient de nous faire chanter quelques cantiques, nouveaux cantiques pour certains. Eh bien, il s'agit là d'un cantique, vous voyez. Et ces cantiques, qu'on appelait les cantiques des degrés, c'était les cantiques que les pèlerins juifs chantaient en cours de route quand ils montaient vers Jérusalem, la ville sainte, pour y célébrer les grandes fêtes religieuses que Dieu avait instituées dans sa parole. Et chemin faisant, ils chantaient ces cantiques, et particulièrement, ils chantaient ce cantique-là, le psaume 130. Et dans ce psaume, il y a, n'est-ce pas, ces versets 3 et 4 que je voudrais citer particulièrement, sur lesquels je voudrais attirer votre attention cet après-midi. C'est une prière, c'est aussi une affirmation. Si tu gardais le souvenir des iniquités, c'est-à-dire de nos injustices, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon se trouve auprès de toi. Notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Amen. Et cet après-midi, je voudrais vous parler du pardon. Alors, c'est vrai que c'est Dieu et Dieu seul qui, par Jésus-Christ, son Fils, pardonne les péchés. Un jour, nous dit l'Évangile, on a amené à Jésus un homme infirme, paralytique, couché sur son grabat. Quatre de ses amis l'avaient amené au pied du Seigneur, bien sûr pour qu'il soit guéri. Et comme c'est étrange, la première des paroles qu'a adressé Jésus à cet homme, c'est pour lui dire « Tes péchés sont pardonnés ». Alors la Bible, l'Évangile nous dit qu'il y avait là quelques hommes éminemment religieux qui ont intérieurement contesté la déclaration de Jésus en disant « Mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et je dirais que dans un certain sens, ces gens avaient raison. Effectivement, il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Mais si Jésus a pu dire à cet homme « Tes péchés sont pardonnés », c'est justement parce qu'il est Dieu. Il est Dieu fait homme, mais il est Dieu et parfaitement Dieu, et à ce titre, en mesure de pardonner les péchés. Et il ajoutera, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Ce pouvoir, voyez-vous, il l'a acquis, en mourant sur la croix du calvaire, justement à cause de nos péchés. Nous aimons citer ces versets de la Bible, et ils sont fort nombreux, par exemple, qui disent que Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nos péchés, ce qui signifie qu'il n'est pas mort pour ses péchés, il n'en avait point, mais pour les nôtres. Il les a pris à son compte, et là, sur la croix du calvaire, oh, j'aimerais tellement que vous le compreniez, eh bien, il a pris à sa charge la faute que vous aviez commise, les péchés que nous avions commis, et il meurt sur la croix pour subir le châtiment, la punition que finalement nous méritions. Lui fut frappé pour que vous et moi, chers amis, nous puissions être pardonnés, nous puissions recevoir la miséricorde de Dieu, nous puissions être épargnés. Alors cet après-midi, je voudrais voir quels sont les effets, les résultats du pardon que Dieu nous accorde. Et si vous voulez, on va voir les effets du pardon dans quatre directions. D'abord, les effets du pardon vis-à-vis de Dieu. Les effets du pardon vis-à-vis de nous-mêmes. Les effets du pardon vis-à-vis du diable, car le diable existe. Et les effets du pardon que Dieu nous accorde vis-à-vis de nos semblables. Vous me suivez ? Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis du diable et vis-à-vis de nos semblables. Alors on commence par le commencement, les effets du pardon vis-à-vis de Dieu lui-même. Voilà, eh bien quand Dieu nous pardonne, il nous réconcilie avec lui. Hein? La réconciliation, ça signifie que la communication, le contact est rétabli entre notre Créateur et nous-mêmes. Voyez-vous, le mal que vous et moi, parce que nous sommes tous concernés, même si nous pouvions dire « je n'ai ni tué ni volé », nous sommes tous concernés par ce problème majeur du péché. Le péché, donc, a détruit notre relation, notre communion, notre communication avec Dieu. Mais quand Dieu nous pardonne, eh bien, la communication est rétablie. Dans l'Épître aux Éphésiens, un texte qui se trouve dans la Bible, au chapitre 2, verset 13, il est dit ceci, « Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. » Eh oui, nous étions, nous les humains, éloignés, séparés de Dieu, privés de sa présence, et il en est ainsi tant que nous ne sommes pas pardonnés. Mais lorsque Dieu nous fait grâce, lorsque Dieu nous pardonne, nous qui jusque-là étions loin de lui, nous pouvons vivre en sa compagnie, en sa communion. Voilà mes amis, l'effet, le résultat du pardon vis-à-vis de Dieu. Et ça va encore plus loin, parce que quand Dieu nous pardonne, il déclare que nous devenons ses enfants. Alléluia. J'ai reçu hier dans mon bureau un jeune homme qui a vécu une aventure peu commune. C'était mal parti, mais ça a bien fini. Hein? Alors vous aimez les belles histoires qui finissent bien. Je vais vous la raconter. Ce jeune homme est un jeune Africain et suite à divers problèmes, il a été amené à quitter son pays, voyons, alors qu'il était encore mineur. Il a quitté sa famille, il a quitté son pays d'origine, il a quitté sa culture, il a quitté bien tout ce qui avait fait son univers jusqu'à présent. Et il est venu en France, et là, en France, quelqu'un devait le prendre en charge. Le problème, c'est que quand il est arrivé en France, la personne qui devait le prendre en charge ne s'est pas manifestée. Et ainsi, ce jeune qui était mineur, qui avait moins de 18 ans, s'est retrouvé à la rue. Alors les policiers, n'est-ce pas, qui arpentaient les rues de la ville, ont remarqué ce jeune homme qui avait l'air un petit peu perdu, et qu'il était d'ailleurs, qui avait l'air un petit peu paumé. Ils l'ont interpellé finalement. Eh bien, il a été placé dans un foyer d'accueil. Mais le temps a passé et il est arrivé à devenir majeur, adulte, 18 ans. Et alors là, les autorités étaient sur le point de prendre une mesure d'expulsion à son égard parce qu'il était majeur et en situation irrégulière. Et lui, il se désolait de cet état parce qu'il se disait « Mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Et ses professeurs ont remarqué que ça n'allait pas, que souvent, même en cours, les larmes coulaient. Alors, les professeurs se sont intéressés à lui et son professeur principal a pris un petit peu à part. Il lui a dit, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Explique-moi. Et alors, il a expliqué sa situation. Et il se trouve que les professeurs ont partagé ce problème. Et parmi ces professeurs, voyez, il y en a une qui a dit, eh bien, moi, je vais faire quelque chose pour lui. Je vais l'adopter, tout simplement. Et aujourd'hui, eh bien, ce garçon est en sécurité, hein, j'ai envie de dire alléluia, hein, il est dans une famille, il est logé, il est nourri, et pas que ça, il est aussi entouré d'affection et traité comme un fils. Et je dis, mais avec les autres enfants de la maison, est-ce que ça se passe bien? Parce que cette dame, elle a d'autres enfants. Et même ça se passe super bien, tout le monde m'aime, tout le monde s'occupe de moi, et il a retrouvé la paix, la sécurité, vous voyez? Parce que quelqu'un a eu suffisamment de cœur pour que ce jeune, ce gars qui était à la rue, ce jeune qui n'avait pas d'autre espérance que d'être expulsé du territoire national, eh bien, puisse eh bien, être dans une situation de sécurité. Toute proportion gardée, mes amis, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. J'ai dit qu'il était paumé, qu'il était perdu, c'est vrai, mais nous en sommes tous là, vous savez. Même si peut-être socialement tout va bien, même si nous avons une famille, une épouse ou un mari, des enfants, des parents, même si notre sécurité matérielle est assurée, quant aux choses de l'éternité, nous sommes en plein marasme, en pleine confusion. Mais Dieu qui nous aime nous pardonne, quand il nous pardonne, il nous adopte et nous devenons ses enfants. Alléluia. Et c'est formidable que d'être un enfant de Dieu, j'ai un père, disait un vieux cantique autrefois, là-haut, dans le ciel. Et ce Père-là, il prend soin de moi. Et je vous assure que c'est vrai. Est-ce que Dieu est votre Père? Si ça n'est pas été le cas jusqu'à présent, il peut le devenir. Il veut vous adopter au moment même où il vous accordera son pardon. Voilà quels sont les effets du pardon que nous recevons vis-à-vis de Dieu. Nous sommes réconciliés avec lui et nous sommes adoptés. Désormais, nous faisons partie de sa famille. Alléluia! Maintenant, les effets du pardon vis-à-vis de nous-mêmes. L'Écriture dit que pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et qui de ce fait ont reçu son pardon, il n'y a plus de condamnation à redouter. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1er, dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Jusque-là, tant que le pardon de Dieu n'était pas intervenu, nous étions passibles d'une condamnation. Elle reposait sur nous en quelque sorte. Elle était suspendue au-dessus de notre tête comme une épée de Damoclès et elle menaçait cette condamnation de nous atteindre à tout moment. Parce que si nous demeurons dans le péché, malheur à nous, mes amis. Lorsque nous comparaîtrons devant lui, du fait de nos péchés non pardonnés, Dieu dans sa justice, car Dieu est amour, mais il est aussi un Dieu de justice, se verra contraint de nous condamner. Et notre sort, c'est terrible, mais c'est ainsi, sera l'enfer éternel et ses tourments perpétuels. Mais quand Dieu nous pardonne, la condamnation est ôtée. Alléluia. La mesure de condamnation qui aurait dû nous atteindre est anéantie, détruite, et maintenant nous sommes en sécurité. Et puis, vis-à-vis de nous-mêmes, le pardon produit un autre effet, en ce sens que le sentiment de culpabilité disparaît. L'apôtre Paul parlera de la situation qui était la sienne avant qu'il ne devienne chrétien. Voyez, et il dira ceci, « J'étais un blasphémateur, j'étais un persécuteur des croyants, eh oui, j'étais un homme violent, voilà le tableau. Voilà le sinistre, le triste personnage qu'il était, blasphémateur, persécuteur, homme violent, mais comme un cri de délivrance, il dira « Mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. » Il se sait pardonner. La grâce de Dieu est passée par là, n'est-ce pas ? Sur le chemin de Damas, alors qu'il s'apprêtait à faire sa triste besogne qui consistait à persécuter les chrétiens, Jésus-Christ l'avait rencontré et sa vie avait été complètement transformée. Se savait pardonner, le sentiment de culpabilité avait disparu. Et mes amis, quand on se sait pardonner par Dieu lui-même, personne ne peut plus contester cette réalité. Alléluia. Quand Dieu nous a pardonnés, le monde entier pourrait se dresser, nous dire « ça n'est pas vrai, tu es un menteur et tu es toujours ce que tu as toujours été ». Dieu nous a fait grâce. Quand Dieu nous pardonne, toute trace de nos anciens péchés disparaît. Dieu lui-même n'en s'en souvient plus, il n'en sera de son côté plus jamais question. Et si lui ne s'en souvient plus, nous n'avons plus non plus à cultiver le remords dans notre conscience, parce que la Bible dit que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? La conscience, c'est le siège du souvenir quant à nos fautes passées. Voyez ? La conscience, eh bien, elle se souvient dans le moindre détail de ce que nous avons fait, de ce que nous avons pratiqué. On me parlait d'un vieux bonhomme qui était, comme on dit, sur son lit de mort et qui s'écriait, oui, mais mes fautes de jeunesse, voyez, c'était un vieillard, il était aux portes de la mort, mais sa conscience le tourmentait, le travaillait, le remuait, parce qu'il se souvenait de son passé, de son triste passé. Mes amis, quand Dieu nous pardonne, eh bien, la conscience, elle est dégagée. Alléluia. Elle est libérée, le tourment cesse. Dieu nous fait grâce. C'est terrible, une conscience chargée. Vous ne trouvez pas ? Quand nous cultivons, nous, le remords de nos fautes. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème de Victor Hugo. Caïn, l'œil de Caïn. Vous connaissez ça ? Alors je vais vous raconter en deux mots. Hein. Bien sûr, c'est un arrangement de la vérité biblique, mais enfin. Hein. Victor Hugo déclare que Caïn, voilà, du fait du meurtre qu'il avait commis à l'égard de son frère, Abel, eh bien, s'enfuyait, il allait de lieu en lieu. Et partout, eh bien, il y avait un œil énorme, semble-t-il, qui le regardait. Les autres ne voyaient pas cet œil, mais lui, il le voyait, l'œil de la conscience, finalement. Alors Caïn a décidé de se faire construire une tombe, rien que ça, et de s'enfermer à l'intérieur de la tombe pour que l'œil qu'il voyait ne le voit plus. Et le poème se termine en disant « Et dans la tombe, l'œil regardait Caïn. » Comme quoi, on ne peut pas échapper à notre conscience. On pourrait s'enfermer dans une tombe. On pourrait, n'est-ce pas, eh bien, je ne sais pas moi, aller au bout de la terre. On pourrait s'enfuir au cœur des mers. On pourrait monter dans le cosmos. Mais notre conscience, elle nous poursuivra toujours. Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse purifier notre conscience. Si au milieu de nous, cet après-midi, il y a quelqu'un dont la conscience est chargée, avouez vos fautes au Seigneur. Demandez-lui de vous faire grâce. Demandez-lui de vous pardonner. Et après cela, vous serez libérés, vous serez dégagés de ce tourment intérieur. Et puis, il y a les effets du pardon vis-à-vis du diable. Le mot « diable » veut dire « calomniateur ». Accusateur, c'est le grand accusateur. La Bible dit qu'il nous accuse devant Dieu jour et nuit, vous savez ça? Dans un procès, dans un tribunal, il y a un personnage que l'on appelle le procureur de la République. Et le procureur de la République a pour fonction, pour mission, c'est pas drôle mais c'est ainsi, de présenter et d'insister lourdement sur la culpabilité de l'accusé et d'exiger que lui soit appliquée la peine maximale. Après, il y a la plaidoirie de l'avocat, de la défense. Après, finalement, le juge va rendre sa sentence définitive. Mais dans un premier temps, le procureur de la République, il appuie là où ça fait mal. Et il exige, il demande, il réclame que la peine maximale soit appliquée à celui qui est accusé. On peut, toute proportion gardée, dire que le diable, c'est une espèce de procureur. À cette différence près que ça n'est pas devant les tribunaux humains qu'il s'exprime, mais c'est devant Dieu lui-même. Il nous accuse devant Dieu jour et nuit, demandant donc que notre condamnation, que le châtiment, que la sanction nous soit appliquée du fait de nos péchés, et cela sans tarder. Mais quand Dieu nous pardonne, son accusation, celle du diable, n'a plus lieu d'être. Et ce verset que je citais il y a un instant, disant que le diable nous accuse devant Dieu jour et nuit, il est dit ceci: « Mais ils l'ont vaincu, l'accusateur des frères. » Ils l'ont vaincu, les croyants. Ils l'ont vaincu, ceux qui ont mis foi en Jésus. Ils l'ont vaincu, les véritables enfants de Dieu qui ont saisi la grâce et la miséricorde du Seigneur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Autrement dit, ces gens-là, voyez-vous, ont eu foi dans la valeur du sacrifice de Jésus. Jésus qui nous est présenté dans la Bible comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Autrefois, en Israël, lorsqu'un Israélite, un Juif pieux, voulait s'approcher de Dieu, comme il avait parfaitement conscience d'être malgré tout un pécheur, il sentait la nécessité d'offrir un sacrifice pour qu'au travers de ce sacrifice, ses fautes soient couvertes. Et généralement, le sacrifice offert était un agneau. On immolait l'animal, le sang était répandu, et l'on estimait qu'ainsi le sang de cette victime innocente venait couvrir, venait expier la faute du coupable. Eh bien, mes amis, pour nous, ce n'est pas le sang d'un animal quelconque qui a été répandu, mais c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, eh bien, purifie de tout péché. Et quand nous avons foi dans la valeur du sacrifice de Jésus, vous savez quoi? Le diable a la bouche fermée. Alléluia. Le diable a la bouche fermée et nous ne pouvons plus être l'objet d'aucune accusation devant Dieu de sa part. Et puis, le pardon aussi, et je vais terminer par là, a des effets vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos semblables. Ça peut être notre famille, ça peut être nos collègues de travail, ça peut être la société tout entière. Mais quand Dieu nous pardonne, quel qu'était jusque-là le comportement que nous ayons pu avoir, nous retrouvons notre dignité. Alléluia. Nous retrouvons notre dignité. Parce que non seulement Dieu annule notre passé, mais il nous permet de nous engager dans une vie nouvelle. Nous avons dans les Écritures ce témoignage, ce récit de cette femme qui était une prostituée, appelons les choses par leur nom, et qui un certain jour est venue, alors que Jésus prenait un repas chez un homme religieux, et venait pleurer à ses pieds. Et là, pendant un temps, couchée aux pieds du Seigneur, elle a versé d'abondantes larmes, a arrosé les pieds du Seigneur de ses larmes, puis les a essuyés avec ses cheveux, les a couverts de baisers et les a arrosés de parfums ensuite. Alors l'homme religieux qui avait invité le Seigneur raisonnait en lui-même en disant: « Mais si cet homme, ce Jésus-là, était un vrai prophète, il connaîtrait qui? De quelle espèce ?» Voyons, on sent tout le mépris de cet homme pour cette femme. De quelle espèce cette femme qui le touche est? Mais Jésus savait parfaitement. Et Jésus dira à cette femme: tes péchés sont pardonnés. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Et sans un mot, voyez, cette femme est repartie le cœur léger. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait pardonnée. Parce que Dieu la pardonnant, et bien maintenant elle se sentait capable, avec l'aide du Seigneur, de repartir à zéro dans l'existence et de mener une vie droite, une vie pure, une vie sainte à la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il relève notre tête. Alléluia. Hein? Il relève notre tête. Il y a un verset qui dit que du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Peut-être autour de vous, il y a des gens qui vous montrent du doigt. Ils vous disent, mais souviens-toi, quel sinistre individu tu as été. Nous savons ce qu'il y a dans ta vie. Pas la peine de te cacher là-bas à l'église évangélique. Nous savons qui tu es, nous savons qui tu l'as fait. Mes amis, quand Dieu nous pardonne, il relève notre tête. Il nous rend notre dignité, gloire à Dieu. Il transforme notre existence. Un jeune homme a fait une expérience à ce sujet. Il devait postuler pour un travail à Monaco. Et vous savez, à Monaco, eh bien, pour pouvoir y travailler, il faut montrer, comme on dit, patte blanche. Il faut avoir un casier judiciaire tout blanc, vierge, comme c'est pas possible de l'être, n'est-ce pas? Parce que sinon, eh bien, on vous refoule, on ne vous veut pas. Et je crois même que ce jeune avait eu, dans le passé, dans son passé, des histoires avec la police, la drogue, tout ça. Alors, vous savez, les policiers, mon gars, ont commencé à l'interroger, d'où tu sors, et qu'est-ce que tu as fait, tu es là. Et c'était un chrétien. Et il a dit, mais vous savez, je fais partie de l'église de M. Caddy. M. Caddy, c'est un pasteur qui habite tout près de Monaco et qui lui aussi a eu un lourd passé. Hein? C'était un vrai truand, mais le Seigneur a changé sa vie. Et le Seigneur a tellement changé sa vie qu'aujourd'hui, cet homme, ce frère, ce pasteur, dans le quartier, dans la ville même de Monaco, a une excellente réputation. Et les policiers ont dit à ce jeune, tu fais partie de l'église de M. Caddy, alors c'est bon, tu peux venir travailler chez nous. Vous voyez, la réputation de ce garçon, de ce frère, de cet homme, avait tellement changé. Autrefois un gangster, autrefois un voyou, autrefois un délinquant, autrefois un garçon qui connaissait la prison à multiples reprises. Et maintenant, quelqu'un dont même les autorités pouvaient dire il est recommandable. Et parce que ce jeune se recommande de lui, eh bien nous pouvons l'accepter parmi nous. Quand Dieu nous pardonne, il relève notre tête. Alléluia. Voilà ce que fait le pardon de Dieu. Alors, la question qui se pose, c'est celle-ci. C'est comment faire pour recevoir le pardon? D'abord, précisons que le pardon n'est pas accordé automatiquement. Vous savez, il y a des gens qui veulent nous dire, oh, Dieu finira par pardonner tout le monde. Vous avez jamais entendu ça? Pour que nous allions tous au ciel. Dans certaines cérémonies d'obsèques, on entend cette phrase concernant le défunt. Reçois ton fidèle serviteur. Vous avez jamais entendu ça? Il a vécu une vie de patachon. Il a fait pique pendre. Il n'a jamais eu un mouvement d'intérêt vers Dieu. C'était un incrédule patenté. Et on dit, reçois ton fidèle serviteur. Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas recevoir un tel homme. S'il le faisait, il nierait sa justice. Or, mes amis, Dieu ne tergiverse pas avec sa justice. Il est un Dieu saint. Dieu ne pardonne pas automatiquement. Dieu ne pardonne pas là comme ça, en vrac, tout le monde, pour que nous allions tous au paradis. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, ce pardon, pour le recevoir? Car il y a quelque chose à faire. Un jour, l'apôtre Pierre, dans les Écritures, a prêché l'Évangile, et certainement beaucoup mieux que je ne sais le faire cet après-midi. Et à la fin de son discours, de sa prédication, ses auditeurs ont pu dire, mais que faut-il que nous fassions, hommes, frères, que ferons-nous? Plaise à Dieu que ce soit là le genre de question que vous vous posiez intérieurement pour être pardonné. Quant à mes péchés, qu'est-ce que je dois faire pour que mon passé soit oublié, pour que je devienne un être nouveau, pour qu'il n'y ait plus de condamnation qui repose sur moi, pour que je sois en paix avec Dieu, pour que je sois en paix avec moi-même, pour que ma dignité soit retrouvée? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mes péchés soient pardonnés? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut reconnaître que vous avez impérieusement besoin du pardon de Dieu. Ne dites pas, moi, le péché, je ne sais pas ce que c'est. Monsieur, je n'ai rien fait de mal. Je vous assure, Je suis blanc comme neige. Non, mes amis, si nous raisonnons ainsi, eh bien, nous nous séduisons nous-mêmes. Je dirais même en vérité que le plus grand besoin que vous avez, c'est de recevoir le pardon de vos péchés. Tout à l'heure, je mentionnais le cas de cet homme, de ce paralytique, qu'on a conduit au pied de Jésus, manifestement pour que Jésus le guérisse. C'est étrange. Jésus ne lui a pas parlé, dans un premier temps tout au moins, de son problème de santé, mais de son problème spirituel. Pourquoi ? Parce que Jésus commence toujours par l'essentiel. Et l'essentiel, avant que cet homme soit guéri, et finalement il le fut, gloire à Dieu, guéri. Mais l'essentiel était dans un premier temps qu'il reçoive le pardon de ses péchés. C'est pourquoi Jésus, voyant leur foi, dira à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Vous êtes peut-être venu avec un tas de problèmes. Problèmes de santé, problèmes familiaux, problèmes financiers, problèmes professionnels, etc., etc., etc. N'en jetez plus, la cour est pleine. Et le Seigneur qui est bon veut vous secourir dans vos besoins, veut vous porter aide, secours, assistance. Gloire à Dieu, béni soit son nom. Mais avant tout, premièrement, essentiellement, d'abord, commençons par le commencement, il veut pardonner vos péchés. Parce que c'est là votre besoin le plus grand. C'est là le problème majeur dans votre existence. Car mes amis, si vous en restiez là, avec le poids de votre péché pesant sur votre cœur, vous seriez, au jour du jugement, irrémédiablement perdu. Et Dieu qui vous aime veut vous sauver. C'est pourquoi il veut vous pardonner. Alors, il faut que vous preniez conscience de cette nécessité et que le pardon, tout simplement, vous le lui demandiez. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Y aura-t-il quelqu'un cet après-midi qu'il a dans le fond de son cœur, tout à l'heure, dans quelques instants, quelques secondes ou quelques minutes, intérieurement, formulera ce genre de prière. Seigneur, pardonne mes péchés. J'ai un ami, un collègue même, qui est missionnaire, qui a servi le Seigneur en France et en Afrique aussi pendant de longues années. Et il y a bien, bien des années, alors qu'il avait une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, c'était un pauvre gars. Un pauvre garçon, dépressif, malheureux, au bout du rouleau, ayant perdu le goût de vivre, voyez, travaillé par des idées morbides. Et un jour, il s'est trouvé que ce garçon est venu écouter l'évangile dans un petit village du sud-ouest. Ce n'était même pas une salle évangélique, c'était chez un particulier. Quelques croyants, quelques chrétiens se réunissaient dans la soirée. L'évangile était prêché, annoncé. Et alors, ce jeune est venu, il s'est assis, il a écouté ces gars, ces filles qui rendent des témoignages de leur foi. Il a entendu le prédicateur, il n'a pas compris grand-chose. Il n'a pas compris grand-chose. Simplement, à la fin de son message, de sa prédication, le prédicateur a dit ceci, « Et maintenant dites, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. » Ah, cette phrase l'a marqué. Il s'en est souvenu de cette phrase. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Il avait oublié tout le reste. Ça ne l'avait pas impressionné. Il n'avait rien compris. Mais ça a été comme une flèche qui était décochée là dans son cœur. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Et c'était la nuit, c'était le soir. Il est reparti au volant de sa bétaillère. C'était à la campagne. Hein. Et chemin faisant, tout en conduisant. Il était seul dans la voiture. Il n'y a personne que lui-même. Et puis Dieu, il a fait monter cette prière. Pas comme un perroquet, là, mais avec le cœur, avec vérité, sincérité. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Voilà ce qu'a été sa prière, voyez. Il n'a pas récité de notre Père, de « Je vous salue ». Il n'a pas multiplié des phrases à l'infini, des paroles les unes après les autres. Il n'a pas débité un tas de niaiseries ou de bondieuseries. Non, non, non. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Et il est arrivé chez lui. Il s'est endormi, comme on dit, du sommeil du juste ce soir-là. Et il dit dans son témoignage, quand je me suis réveillé le lendemain, la dépression était partie. Ma vie avait changé. Qu'est-ce qui s'était passé ? Jésus avait pardonné ses péchés. Il veut faire la même chose pour vous. vous. Alléluia. Y aura-t-il quelqu'un aujourd'hui, un jeune, une personne âgée, un enfant même, qui là pourra dire, Seigneur Jésus, mais bien sûr que je suis un pécheur. Je le reconnais, je le confesse devant toi. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Alors, il vous fera grâce. Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est tout simplement y croire. Oui, c'est possible. Dieu pardonne réellement les péchés. Quel qu'en a été le nombre, quel qu'en a été la gravité, l'importance, si tant est que certains péchés soient plus graves que d'autres. Peut-être il y a des choses que vous vous reprochez terriblement. Je l'ai fait, je l'ai fait, je sais que je l'ai fait, j'aurais pas dû le faire. Ah, je n'arrive pas, je ne parviens pas à oublier ça, pardonnez-moi-même. Mes amis, Dieu qui vous aime est prêt, lui, à vous faire grâce. Le pardon, ce n'est pas Dieu qui ferme les yeux sur la réalité des choses. C'est beaucoup plus que ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, si le pardon est possible, si le pardon de vos péchés est possible, c'est parce que Christ est mort pour vous. Alléluia. C'est parce qu'il a donné sa vie en rançon. C'est parce que par son sang répandu à la croix du calvaire, il a couvert vos fautes afin de les effacer. Et si vous vous en remettez à lui, si vous lui faites absolument confiance, si vous lui faites absolument confiance, eh bien il se produira ce que ce psaume nous affirme. Le pardon, Seigneur, se trouve auprès de toi. Vous le vérifierez, vous le constaterez, vous le recevrez et vous pourrez partir le cœur en paix parce que la grâce, la miséricorde de Dieu vous auront été communiquées. Que son nom soit béni. Prions-le quelques instants, voulez-vous. Notre